Bonjour à tous, vous écoutez Derrière le rôle, un podcast qui vous permettra d'en savoir plus sur ce qu'il se cache derrière la création de parties de jeux de rôle. En somme, bienvenue dans les coulisses. Amis podcasteurs, amis poditeurs, amis rôlistes, bonjour. Bienvenue ici dans ce premier épisode qui sera un peu le pilote de tous les autres. Je me demande même si tous les épisodes ne seront pas des pilotes. Quoi qu'il en soit, bienvenue ici. On va parler de jeux de rôle, bien évidemment. On va parler plus précisément des coulisses du jeu de rôle. Alors déjà, pourquoi un podcast ? Parce que j'en écoute depuis pas mal d'années, que je trouve le format absolument génial, qu'à l'époque, des temps en aussi, hein, dans les podcasts, il n'y avait pas de pub. Et moi, j'ai tendance à fuir la pub le plus possible. Donc c'est vrai que maintenant, y a de la pub avant, après, pendant les podcasts. Ça m'agace un chouïa, mais bon, c'est pas encore comme la télé, donc ça passe. Donc voilà, le podcast a vraiment changé pas mal de trucs dans ma vie depuis à peu près une dizaine d'années. Et du coup, j'ai toujours eu l'idée de faire un podcast. Alors, il fallait définir le thème, parce que déjà des podcasts sur tous les sujets, il en existe plein. Donc il n'était pas, bien évidemment, pas question de copier. Il fallait que je fasse un podcast sur quelque chose qui me plaisait. Et il s'avère que j'aime le jeu de rôle. Je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire un podcast sur le jeu de rôle. Et on va essayer de changer un petit peu la donne vis-à-vis des podcasts sur le jeu de rôle qui existent déjà. Parce qu'à l'heure actuelle, des podcasts sur le jeu de rôle, il y en a plein, des très bons. Et c'est vraiment une super initiative de faire découvrir le jeu de rôle via le podcast, parce que voilà, ça ouvre des portes à ceux qui ne connaissaient pas. Mais le souci que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est que les podcasts sur le jeu de rôle se contentaient de présenter des parties. Un maître du jeu qui masterise, des joueurs qui interagissent avec cette histoire. Et une fois la partie terminée, le podcast s'arrêtait là. Et j'avais envie de parler des coulisses d'une partie de jeu de rôle, parce qu'il se passe énormément de choses en dehors des parties avant, pendant et après. Des choses que l'auditeur et même le joueur de la partie ignore totalement. Voilà, il faut savoir qu'un maître du jeu qui décide de dire à ses joueurs « Ok, tel jour on joue », a pris la peine de faire des choses en amont. Il est hors de question de se pointer, même si ça arrive, hein, il est hors de question de se pointer en partie avec les mains dans les poches et hop, on joue. Non, il y a un scénario, il y a une étude un peu du concept, il y a une façon de préparer les joueurs, préparer sa partie, préparer l'avenir de ses joueurs et l'avenir de la partie. Et ça, c'était trop peu abordé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment on va le faire ? Ben, tout simplement, on va faire plusieurs épisodes d'environ 30-40 minutes pour préparer la partie. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ma vision de la partie de jeu de rôle, parce qu'il faut savoir qu'il y a autant de visions du jeu de rôle que de maître du jeu ou que de joueur. Donc c'est important de bien définir ma vision. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la meilleure des visions, mais disons que c'est la vision avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc c'est normal que je vous en parle, et c'est vrai que quand je mène une partie de jeu de rôle, quand je masterise, ma vision transpire un peu dans mes propos. Ensuite, on parlera, après avoir parlé de la vision, on parlera de la création d'un scénario. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Pourquoi on le met dedans ? Pourquoi on met pas des trucs ? Pourquoi on en met beaucoup plus que d'autres ? On parlera aussi des joueurs. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Et plus sérieusement, comment faire en sorte qu'ils soient investis dans la partie ? Parce que c'est bien sympa d'avoir ses potes autour de la table. S'ils se font royalement chier, autant mater un film ou autant savoir au téléphone 5 minutes. Donc voilà, il va falloir trouver quelques ficelles pour essayer de faire en sorte qu'ils soient acteurs du jeu. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le terme jeu de rôle, le terme prépondérant, c'est jeu. Il faut s'amuser quand même. Et si ça devient une tannée et pour le master et pour le joueur, ça devient un petit peu compliqué. Voilà. Et ensuite, après ça, on écoutera la partie, tout simplement. Je découperai une partie, qu'on fera une partie qui va durer 1h30. Je vous la ferai écouter telle qu'elle, sans montage, pour que vous ayez un début de sensation. Et l'épisode qui viendra après cette partie, il y aura du montage. Ça va consister en quoi ? Tout simplement, je vais faire des apartés durant la partie. Admettons que le joueur dise j'entre dans la taverne. Bon, moi, je vais faire une petite aparté en vous expliquant ce que j'avais prévu qu'il fasse pour vous montrer que des fois on prévoit des choses qui ne se passent pas du tout comme prévu. Dans ces cas-là, comment réagir ? Je vais vous parler aussi un petit peu des secrets, des choses qui sont en sous-main, que les joueurs ignorent totalement, que les joueurs ne veulent peut-être pas voir aussi, hein, peut-être parce qu'ils sont partis dans une autre direction. Et tout ça, ça peut donner des billes et aux joueurs et aux MJ pour se dire, ah ben finalement, c'est pas grave si j'écris des choses qui sont pas prises en compte. Parce que vous allez vous apercevoir en tant que maître du jeu que quand vous écrivez un scénar, vous allez en jeter, sans mentir, bien 80%. À minima. Donc souvent ça peut te décourager. Donc moi, via ces apartés dans la partie, j'essaierai de vous rassurer, voilà, sur le fait que hey, c'est pas grave. L'important c'est que vos joueurs prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, prennent du plaisir à interagir avec vous et surtout reviennent pour faire quand même un petit peu évoluer les choses. Et ensuite, après ça, on repartira sur une création de scénario, comment vont évoluer les choses, parce qu'on part d'une idée, on part d'un chemin, un point A, un point B, mais forcément les joueurs vont faire plein de zigzags pour arriver au point B, donc on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils arrivent vers le point B. Voilà. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, chaque personne a sa façon de voir le jeu de rôle, chaque personne a sa façon de jouer et de masteriser, moi j'ai la mienne. Alors, il y a différents types de MJ. Moi, je suis axé à fond sur les joueurs. Il faut savoir qu'il y a des maîtres du jeu qui écrivent une histoire et qui exigent de la part des joueurs que cette histoire soit réalisée à 100% comme ils l'ont écrite. Selon moi, c'est pas la bonne chose, parce qu'il faut que les joueurs s'amusent. S'ils s'amusent pas, ça se voit vite. Un joueur qui prend aucun plaisir à jouer, bah déjà il revient pas. Deux, il se fout littéralement de ce qu'il fait, donc il fait un peu n'importe quoi. Il peut aussi perturber les autres joueurs qui sont accrochés à cette histoire. Donc c'est un peu dommage. Moi je suis le genre de maître du jeu qui fait un peu des parties un peu bac à sable, avec un tronc commun qui pourrait être appelé un fil rouge, voilà, un espèce de squelette assez linéaire sur lequel viendra se greffer plein de petites vertèbres. Ces vertèbres seront des petites quêtes annexes mises à droite à gauche. Mais l'important, c'est que les joueurs soient conscients que s'ils veulent aller à gauche, ben ils peuvent y aller. Voilà. S'ils disent « ouais, je vais à gauche » et qu'ils sont confrontés à un mur, ça va se sentir. Et c'est pas ma façon de faire du jeu de rôle. Il m'est arrivé de prévoir des scénarios assez linéaires avec un point A, point B, le point B étant bien défini, mais les joueurs ont trouvé beaucoup plus amusant de pas du tout aller vers le point B et ils voulaient aller littéralement à gauche. Bon, bah après quelques secondes d'hésitation, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, c'est ce qu'ils veulent faire, il n'y a pas de problème. On les accompagne là-dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment super important de préparer sa partie. Alors, encore une fois, qui dit préparer une partie dit aussi, entre guillemets, préparer les joueurs, d'accord. Il faut s'entretenir avec eux. Dans ces cas-là, on leur envoie, en fonction de vos moyens de communication, soit un petit mail, soit on les appelle, soit on les croise, et on leur dit, voilà, je vais faire une partie, quel est l'univers que vous voulez jouer? Alors encore une fois, on est dans le respect. On ne va pas leur imposer un univers qu'ils détestent. Je sais que j'aime bien le médiéval fantastique, donc tout ce qui a trait aux dragons, magie, boule de feu, chevalier, etc. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le mettre un petit peu en avant pour présenter un univers aux joueurs. Bon, il s'avère que mes joueurs apprécient aussi, donc c'est parfait. Mais n'allez pas faire du cyberpunk si toutefois vos joueurs n'aiment pas l'ambiance. S'ils ne veulent pas jouer en 3042, mais qu'ils veulent jouer en moins 800, les décors, les interactions ne seront pas les mêmes, et ça c'est important de le mettre en place. Pareil, après avoir défini l'univers, il faut définir le type de partie. Si vous avez des joueurs à votre table qui veulent absolument jouer des guerriers, avoir des épées lourdes et faire couler le sang, ne leur proposez pas, ou peu, des scénarios de diplomatie qui se passent dans un château avec les nobles, parce qu'ils vont s'embêter un petit peu. Alors là, on va les mettre dans une espèce de zone de confort. C'est aussi important, et ça peut être amusant, de les sortir un petit peu cette zone de confort. Mais il ne faut pas que ce soit du 50-50. Encore une fois, dans ma façon de voir les choses, j'essaye de faire 80% de ce qu'ils veulent, à savoir, dans cet exemple, de la baston. Et pour les sortir un petit peu de leur zone de confort, 20% de diplomatie. Ça peut être aussi très marrant de voir une bande de sauvages débarquer à une fête de nobles. Il peut se passer énormément de choses. Concernant ces choses, on les verra peut-être dans le prochain épisode avec quelques pistes qui vont pouvoir vous aider. Donc voilà, une fois que vous avez défini avec vos joueurs et l'univers et le style de partie qu'ils veulent faire, il va falloir créer un groupe. Alors, Au début, quand on pratiquait le jeu de rôle jeune, ben, on venait avec nos personnages et puis on pouvait se retrouver avec 5 voleurs, par exemple. Bon, c'est vrai que maintenant, on part plus sur une idée de comment composer un groupe à peu près équitable, qui veut faire guerrier, qui veut faire diplomate, qui veut faire voleur, etc. etc. Je pense que c'est un peu mieux. Après, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un guerrier, et c'est marre. S'il y en a un qui veut faire un guerrier et l'autre un guerrier, mais un peu axé, vol à la tire, soit. Encore une fois, c'est difficile de dire non à un joueur si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à tronquer un peu les règles. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard, mais s'il y a un guerrier qui veut absolument faire un peu de diplomatie, mais vous voyez que dans le livre de règles, le guerrier n'a pas de compétences de diplomatie, bon, et vous êtes le maître du jeu, s'il y a des règles qui vous embêtent, vous les bazardez. C'est facile de dire au joueur, ok, tu es un guerrier, depuis que tu as 4 ans, tu as une épée dans les mains, mais quand tu vas te reposer chez tes parents, tu as accès à des livres. Alors au début, tu savais pas lire, et puis en les potassant, tu as appris plus ou moins. Ça peut justifier une compétence de diplomatie, par exemple. Ce sera à vous de trouver des, entre guillemets, des petites excuses. Alors soit c'est vous qui les trouvez pour le joueur, soit le joueur va dénicher une idée. Je vous encourage vraiment de poser des questions à vos joueurs. Pourquoi tu aurais une compétence de diplomatie, par exemple ? Et souvent, il va trouver un petit truc sur lequel vous allez pouvoir développer. Voilà. Donc ça, pour la création des joueurs, je vous conseille un entretien verbal ou par mail. Enfin, il faut qu'il y ait une espèce de trace. Mais ne créez pas les joueurs, enfin les personnages pour vos joueurs. Souvent, il y a une espèce de frustration. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui proposent des pré-tirés. Les pré-tirés, qu'est-ce que c'est ? C'est des joueurs qui sont faits de toutes pièces. Et bien souvent, ils collent au scénario et à la campagne proposée dans le jeu de rôle. Alors, les pré-tirés, c'est bien. Mais encore une fois, c'est comme si vous mettez la main dans un gant qui ne vous appartient pas. Vous allez être bien dedans, mais peut-être un peu grand, peut-être un peu serré. Bon, le fait de créer son personnage de toute pièce, c'est vraiment votre gant, à votre taille. Vous l'avez choisi, vous l'avez acheté, c'est votre gant. Maintenant, pour débuter, en tant que MJ ou en tant que joueur, il se peut que vous n'ayez pas d'idée. Les joueurs n'ont pas d'idée, je ne sais pas quoi jouer. Ou le MJ ne sait pas trop comment ficeler les personnages entre eux pour qu'ils évoluent ensemble dans l'univers. Bon, dans ces cas-là, prenez des pré-tirés. Mais je pense que ça a ses limites. Encore une fois, dites-vous bien qu'en tant que maître du jeu, les règles, vous pouvez les chointer. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, vous les enlevez. Alors, vous pouvez le dire à vos joueurs, si vous enlevez des grosses règles très importantes, ou vous ne dites rien si vraiment c'est des petites règles un peu, pas inutiles, mais voilà, qui ne pourront pas vous servir. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les pré-tirés, parfois, il y a des choses que le joueur ne veut pas. Mon personnage est ambidextre, il a 2 épées, moi j'en veux pas, je veux une grosse hache. Bon ben, soit, vous enlevez la compétence ambidextrie et vous mettez la compétence combat à 2 armes. C'est pas grave, ça va pas dénaturer ni le perso, ni la partie de jeu de rôle en elle-même. Donc ça c'est important à prendre en compte également. Alors une fois que les joueurs ont créé leur personnage, il convient de leur donner un peu de volume. Comprenez bien qu'un personnage qui vient d'être créé, donc qui est inscrit sur une feuille de papier, eh ben, il a la même consistance que cette feuille de papier, il est tout plat. Il est plat et un peu fragile. Alors, là je me rends compte que je viens de dire BG, c'est background, c'est l'historique de votre personnage. Quand votre personnage arrive dans la partie, à l'instant T, il n'a pas popé comme ça, sorti de nulle part, pour se retrouver dans un champ. Non, il a fait des choses avant, il a rencontré des gens avant, et il a des affaires sur lui, à moins qu'il soit à poil, mais la plupart du temps, il a des affaires sur lui. Bon, eh ben, ça constitue son historique. Donc, on appellera ça BG, background, ok ? La création d'un BG pour un personnage, pour un joueur, est selon moi extrêmement importante. Pourquoi ? Ben parce que je suis un gros feignant, d'accord ? Un BG... donc l'historique de votre personnage, ça va vous donner des billes, ça va vous donner des grosses ficelles sur lesquelles tirer pour amener vos joueurs à tel ou tel endroit. Si par exemple vous proposez à un joueur d'aller chasser un dragon pour le tuer, mais qu'en fait il s'avère que le joueur il adore les dragons, il ne veut pas les tuer, ça va être un peu compliqué, d'accord ? Tandis que si dans son historique il a perdu toute sa famille qui a été décimée par un dragon, un dragon rouge, par exemple, quand vous allez lui décrire la présence d'un dragon rouge, il va avoir envie d'y aller, d'accord ? Donc la création des BG, c'est extrêmement important. Alors en tant que joueur, moi je sais que j'ai du mal à créer un personnage, sans avoir fait au préalable un background. Alors, moi, je suis le genre de mec qui écrit 5 pages pour faire un personnage avec des photos. Bon, ça, j'aime bien. Et quand je le donne au MJ, souvent, j'ai des retours assez positifs. Positifs, pourquoi ? Bah, parce que le MJ, il s'avère qu'avec mon histoire, il peut en créer d'autres. Moi, je vais lui décrire, par exemple, qui sont mes amis, qui sont mes ennemis, quels sont mes secrets, pourquoi j'ai tel ou tel objet sur moi. Bon, et bah tout ça, le fait pour un maître de jeu de connaître les ennemis d'un joueur, et bah ça va être des billes pour qu'il puisse les faire intervenir plus tard dans la partie. Et c'est vrai qu'en tant que joueur qui fait ça, j'aime bien, en tant que master cette fois, que les joueurs fassent pareil. Alors, encore une fois, il faut savoir raison garder, on n'a pas tout le temps des joueurs qui écrivent 5 pages. J'adorerais ça, moi, qui me donnent des romans d'historique. Sincèrement, on n'a même plus de scénario à créer. Parce qu'encore une fois, mon idée de la masterisation, c'est de faire plaisir aux joueurs. Et j'estime que si le joueur vous dit « voilà, j'ai des ennemis », il va apprécier le fait de les combattre, d'accord ? Si je lui propose une quête pour aller sauver un tel à droite, ben, il va le faire. Mais il va se dire, ok, moi je vais sauver cette personne, je la connais pas, je m'en fous. Tandis que je sais que j'ai des ennemis aux trousses qui fomentent pour attenter à ma vie, j'aimerais bien qu'on y aille. Donc si le joueur me donne des éléments, c'est super important. Donc j'estime en tant que MJ, et c'est un conseil que je vous donne, obliger vos joueurs à vous faire un BG. Que ce soit 3 lignes ou 5 pages, il faut qu'ils aient de la consistance. Hein. Dites-vous bien qu'ils sont tout plats, vos joueurs, à la création. D'accord ? Vos joueurs, vos personnages. Donc, plus ils vont vous donner de détails, plus ils vont avoir de la consistance. Alors, il y a des joueurs qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps. En soi, je comprends. Ça m'agace, un chouïa, mais je comprends. Bah, dans ces cas-là, procédez non pas par une création libre de la part des joueurs, mais par une série de questions-réponses, questions fermées. Par exemple, ton personnage a-t-il des ennemis ? Oui ou non ? Il vous répond non, hop, vous passez à la suite. S'il vous répond oui, vous dites combien sont-ils ? Sont-ils des magiciens, sont-ils des guerriers? Vous pouvez facilement avoir une ébauche de background avec ce genre de questions. Encore une fois, il faudrait idéalement, enfin du moins j'apprécie ça en tant que MJ, que le joueur s'investisse un peu en amont de la partie pour qu'il ait quelque chose à faire dans la partie si toutefois il a envie de le faire. Et ça vous donne des billes. Donc vous pouvez facilement orienter ce genre de création de la part des joueurs. Alors moi c'est vrai que je vais avoir tendance dans ma façon de masteriser à, entre gros guillemets, alors c'est de l'audio, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, à remercier un joueur, et quand je dis remercier, c'est créer de l'interaction avec ce joueur, créer du contenu avec un joueur qui m'a fait un BG, quelqu'un qui ne m'en fait pas. C'est difficile pour moi de l'intéresser à quelque chose qui lui est propre. Encore une fois, pour l'exemple du joueur qui s'est fait cramer sa famille par un dragon, bah forcément je sais qu'il va tilter quand je vais prononcer le nom dragon. Il va se dire, attends, mais moi ma famille elle est décédée, enfin, il y a un dragon qui les a cramés. Bon bah le joueur qui ne m'a rien donné, il est en droit de se dire, bah, je m'en fous de ton dragon, j'en ai rien à faire, c'est un dragon, moi ça m'intéresse pas, je vais aller chasser des lapins. Bah, en soi il a raison, puisqu'il vous avez pas de billes, vous avez pas de ficelle. Donc voilà, je pense qu'à la base de quelques lignes, vous pouvez facilement créer du contenu. Encore une fois, dites-vous que le masteriser une partie, ça demande énormément d'énergie intellectuelle et j'ai envie de dire un peu physique, parce que pendant la durée de la partie, vous n'allez pas arrêter de parler. Alors on abordera quelques astuces pour ralentir un peu le rythme, mais si le joueur vous propose un BG, bah c'est du travail en moins que vous allez avoir à faire. Et si vous avez un peu moins de travail à faire sur la création, vous allez pouvoir donner plus de votre temps sur la narration. Et qui dit narration, dit implication des joueurs, dit que le joueur va s'imprégner un peu plus, puisque vous allez pouvoir en rajouter. Donc voilà, ça c'est super important à prendre en compte, le background d'un personnage, dites-vous que c'est la consistance du personnage. Alors une autre astuce pour créer un BG, et ça je vais le répéter, c'est la première fois que je le dis, mais je vais le répéter sans cesse, quand vous allez interagir avec vos joueurs, qui ne le sont pas encore puisque la partie n'a pas encore démarré, n'hésitez pas à prendre des notes, sans rentrer dans le détail, ah bah alors tu veux jouer, donne-moi un background, qu'est-ce qu'il a fait ton personnage? Non, ça peut être un peu intrusif et ça peut ne pas coller. Ce que je vous conseille de faire, si toutefois vous sentez que la personne n'est pas super chaude à l'idée d'écrire un texte, bah vous prenez votre petite feuille de notes et puis vous lui dites, ouais, tu le vois comment ton personnage? Ah oui, d'accord, il aime se battre, il aime pas se battre, mais pourquoi? Ah, parce que on lui a toujours dit que c'était interdit. Vous prenez des notes, interdit de se battre. Et au fur et à mesure de la conversation, vous allez forcément dégoter des idées. Mais encore une fois, c'est un petit travail qui se fait en amont. Alors ça peut se faire en détente totale, hein. On n'est pas obligé d'être dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais en présentiel avec mes joueurs, quand on allait prendre le bus ensemble, je disais, ah, la partie qu'on va faire dans une semaine, là, tu le vois comment ton papy? C'est au fur et à mesure de la discussion qu'on se souvient, qu'on note quelques idées qui peuvent faire partie intégrante de ce background. Et ça peut être aussi amusant de donner dans la partie un détail sur la vie de votre personnage, enfin du personnage qu'incarne le joueur, qu'il n'aura pas noté, mais qui vous aura dit dans le bus. Ce qui va se dire, ah mais attends, mais ça j'en ai parlé, on était dans le bus quand je te dis ça. Oh, vous dites rien, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est pour se simplifier la vie, hein. Vous allez voir quand on parlera de la création du scénario que c'est pas forcément évident de trouver des idées qui collent avec les motivations de vos joueurs. Donc c'est vraiment important de définir les motivations de vos joueurs. Alors après, il y a les BG groupés. Ça peut arriver que deux joueurs soient des super potes et qu'ils veulent jouer ensemble. Ben, très bien, soit vous les mettez ensemble pour qu'ils créent un background, voilà, pour vous êtes frères, vous êtes nés ensemble, ils vont s'échanger des idées, ça peut être très intéressant. Et vous allez voir souvent que les joueurs qui créent un BG, vous allez pouvoir prendre des petits éléments de chacun pour créer un lien. Le lien est important parce qu'en début de partie, ben, il faut que vos joueurs évoluent ensemble. Il est hors de question de faire une partie de 4 heures. Et pendant 4 heures, les joueurs ne se connaissent pas parce qu'ils sont à l'autre bout du pays, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes buts. Il va falloir assez rapidement, du moins je vous le conseille, réunir vos joueurs. Parce que s'ils ne sont pas réunis, quand vous allez parler au joueur numéro 1, et ben, le joueur 2, 3, 4, va se faire chier. Il va écouter l'histoire, une histoire qui ne le concerne pas, et ça peut être un peu frustrant. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de rapidement les réunir. Alors moi, j'ai pris des raccourcis, mais c'est un peu particulier parce que les joueurs, je les connais, et toute cette phase de découverte, ah bah, tu rencontres une personne, bah, je vais demander au joueur 2 de se décrire parce que c'est lui, etc. On les squeeze un peu. Alors, selon moi, c'est un peu une perte parce que l'introduction de joueurs, c'est une phase que j'apprécie assez, la découverte. Mais en vrai on perd énormément de temps quand on voit tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'on n'a pas le temps de faire dans une partie de jeu de rôle. En règle générale, en 5 minutes, c'est torché, les joueurs sont ensemble. Mais pour ça, il faut qu'ils aient un petit BG en commun. Alors vous pouvez l'imposer en tant que maître du jeu, c'est vous qui créez l'histoire. Moi, j'ai tendance à faire, ok, les joueurs, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour la prochaine partie, je vais dire, ok, les joueurs vivent sur une île, vous n'êtes pas forcément amis, mais vous vous êtes déjà vus. Bon, bah ça, c'est l'introduction parfaite. Quand ils vont se rencontrer un petit peu plus loin sur un chemin, je vais dire au joueur numéro 1, ah bah tu vois, joueur numéro 2, il t'a acheté du poisson un jour. Et puis, bah ça, voilà, ça va créer le lien. Vous n'allez pas vous casser la tête à essayer de trouver un lien qui peut être un peu fragile, qui peut tout à fait faire en sorte que vos joueurs, finalement, ils s'en foutent de traîner ensemble puisqu'ils n'ont aucun lien. Voilà. Donc, bon, faut pas oublier qu'on va essayer de gagner un peu de temps et de se faciliter un peu la vie. Donc, les BG en commun, c'est bien. Vous pouvez aussi insuffler des petites idées. Par exemple, si vous savez que vous allez partir sur un background qui a lieu en montagne, pourquoi pas, dans un background, dire à un joueur « Est-ce que tu as une affinité particulière avec la montagne ?» Alors, c'est rare quand il va vous dire « Non, la montagne, je m'en fous. » Et même s'il vous dit ça, vous pouvez très bien dire « Ton père t'a raconté que dans son passé, il traînait beaucoup dans la montagne. » Et ça suffit. C'est censé suffire à aiguiser un peu la curiosité du joueur, même s'il ne fait pas mention de ce que vous venez de dire plus tard dans la partie. Quand vous allez dire le mot montagne, tout de suite il va y avoir un lien dans son cerveau qui va se dire « Ah, mais mon père il m'a parlé de la montagne », et ça peut suffire. Voilà. Encore une fois, la création d'un scénario passe, selon moi, à 80% par la création du BG. J'ai envie de dire que je pourrais vraiment, sincèrement, masteriser une dizaine de parties sans avoir écrit une ligne de scénario, juste en me basant sur les backgrounds. Alors après, encore une fois, chacun sa façon de masteriser, mais moi, un joueur qui me donne du contenu, en retour, je lui rends ce contenu. Donc pour moi, c'est super important, peut-être parce que moi, en tant que joueur, je crée des BG, mais c'est super important d'avoir ces quelques lignes, ça va vous aider vraiment à trouver un socle. Alors, autre chose également à prendre en compte, mais là, c'est un peu propre à ma façon de masteriser, et ça s'est fait un peu avec le temps. J'évite de révéler tous les secrets de l'univers dans lesquels les joueurs vont évoluer. Je leur en dis quelques mots. Pourquoi ? Déjà parce que j'aime bien l'effet de surprise. Quand je vais aborder pour la première fois avec mes joueurs la présence d'un dragon, s'ils sont au courant qu'ils existent, parce qu'ils ont lu les règles, parce qu'on en a parlé avant, bah ils vont me dire « Ah oui, bah c'est le dragon un tel qui a fait tel dégât et qui possède tel trésor. » L'effet de surprise n'y est plus, et moi je compte énormément là-dessus. N'oubliez pas non plus que vos personnages, vos joueurs, quand ils vont rentrer dans la partie, ils vont être niveau 1, voire niveau 0. Alors, ils peuvent avoir entendu des bribes de dragons, de légendes, etc., mais en aucun cas, ils en ont rencontré. Ce serait dommage de créer un perso niveau 0 qui connaît l'intégralité des secrets du monde. Certes, on dit rarement non à un joueur, certes, on est là pour les encourager à jouer, pour qu'ils prennent plaisir à jouer, mais il y a un moment donné, dans l'intérêt de cet effet de surprise qui, pour moi, est important, éviter de lui dire « Ok, tu as accès à tous les secrets de la planète ». Donc, par exemple, pour le jeu de rôle qu'on va faire, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, c'est du médiéval fantastique, bourré de secrets, d'objets magiques, de personnages charismatiques, de lieux secrets, etc., etc. Mais moi, je vais juste leur dire « Vous avez eu vent ?» qu'il existe un continent qui fait ci, vous avez eu vent qu'il y a des bêtes un peu bizarres qui mangent les hommes, et c'est marre. Encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, l'effet de surprise est très important. J'ai beaucoup de mes joueurs qui me disent, on va jouer dans quel jeu de rôle ? Alors moi, souvent, j'ai tendance à dire, bon, on va jouer, je sais pas moi, INSMV, par exemple. Bon, bah, vous pouvez être sûr que j'ai 2 joueurs sur 4 qui vont lire l'intégralité de tous les bouquins d'INSMV, et moi ça m'embête, parce que quand on veut faire, quand on ramène un ennemi, je sais pas moi, qui va avoir une épée rouge par exemple, hein, je dis une connerie, une épée rouge, bon, et ben si ces joueurs sont capables de me dire « Ah, mais l'épée rouge, c'est tel personnage qui appartient à tel secte, il a tel pouvoir », ça m'embête un peu. Parce que j'ai pas l'effet de surprise. Je peux pas dire, ok, le personnage avec cette épée rouge se met à cracher du feu. Ben, ils vont me dire, ah oui, mais ça, c'est son pouvoir à niveau 4. Ben, oui, mais l'effet de surprise, pour moi, n'y est plus. Ça m'agace un peu. Donc, allez-y mollo avec les détails des personnages. Par exemple, là, pour l'univers qu'on va jouer, il y a quand même peu de chances que les joueurs aient le jeu de rôle, parce qu'il est tout récent, que à l'heure où je vous parle, il est sorti en bouquin, mais ça fait vraiment peu de temps. Moi, je l'ai acheté en PDF via un Kickstarter, et je sais que mes joueurs ne sont pas sur Kickstarter. Il y a peu de chances qu'ils aient le PDF, pour diverses raisons. Donc là, pour moi, c'est tout bénef. Et il y en a certains qui commencent à me dire, ah, c'est quel style d'univers ? Je leur dis juste... médiéval fantastique, on se calme, me pose pas. Ah oui, mais médiéval fantastique, on peut jouer des magiciens. Vous dites oui, on peut jouer des magiciens sans développer le système de magie. Alors, bien évidemment, si le joueur s'aventure dans la création de personnages magiciens, là, vous pouvez en dire un peu plus, mais dans le système de magie du jeu de rôle qu'on va faire, il y a des secrets bien gardés, et il est hors de question que les joueurs soient au courant, parce que ça va littéralement influencer leur façon de jouer. Voilà. Donc, gardez-vous des petites marges de manœuvre, des petites cases un peu cachées que vous allez pouvoir sortir, des cartes joker, entre guillemets, pour insuffler cet effet de surprise qui est pour moi assez importante. Après, je sais qu'il y a des maîtres de jeu qui se rassurent beaucoup en expliquant tout l'univers aux joueurs. Mais je trouve ça un peu dommage. Encore une fois, imaginez-vous arriver dans une ville, vous avez potassé un peu les guides pour savoir où manger, où dormir, mais vous connaissez pas l'intégralité des ruelles. Vous savez pas que en marchant au hasard d'une ruelle, vous allez tomber sur un petit restaurant qui est pas référencé, qui vient d'ouvrir et qui est absolument génial. Ou vous rentrez dans un établissement où il y a la fête et en fait vous passez une super soirée parce que déjà d'une il y a l'effet de découverte et deux vous y attendez pas du tout. Vous aviez prévu d'aller 3 roues plus loin où c'est un truc super réputé et inscrit dans tous les guides. Je suis sûr que dans votre vie perso, vous avez déjà vécu ce genre de truc. Vous allez au cinéma, vous savez pas ce que vous allez voir comme film, vous vous asseyez, et en film, c'est un film qui vous étonne, parce que bah, déjà d'une, vous n'étiez pas au courant, c'était pas du tout ce que vous aviez prévu, et ça tombe bien, parce que c'est cool. Alors après, encore une fois, ça peut être très décevant, mais bon là, on se trompe pas trop, puisque j'ai quand même informé mes joueurs que c'était un univers médiéval fantastique, qu'il y avait de la magie, des secrets, des monstres, etc. Donc ils savent un peu dans quoi ils mettent les pieds, mais sans trop en savoir, voilà. Je trouve que c'est relativement important. Alors voilà, on est à peu près maintenant à 29 minutes d'enregistrement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de comment préparer ses joueurs et rapidement comment préparer sa partie de jeu de rôle. On a vu la création de BG qui, je vous le rappelle, et pour moi, encore une fois, hein, c'est ma façon de voir le jeu de rôle, et pour moi, primordial. On a parlé du fait de pas trop dévoiler les secrets d'une partie. On a parlé des entretiens avec les joueurs dans le but de créer un BG. La prochaine fois, on verra comment préparer son scénario. Maintenant qu'on a toutes les billes entre nos mains, maintenant qu'on a des personnages qui ont du volume, qui ont un passé, on a forcément de quoi s'appuyer dessus pour créer quelque chose de sympa. On verra aussi comment rapidement créer une campagne. On verra aussi ma vision de la campagne. Et on verra surtout ma vision de mener une partie. Parce que je vous rappelle qu'il y a autant de parties de jeu de rôle différentes que de meneurs. Moi, je vous parlerai de ma vision, forcément, c'est plus adéquat. Je ne vais pas vous parler de la vision du voisin, je ne la connais pas des masses. Voilà, donc, à l'heure actuelle, je vais être franc avec vous, le podcast n'a pas de nom. Mais je pense que, bon, bah, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il en a un. Mais sachez que là, quand j'enregistre, il n'a pas de nom, c'est toujours en réflexion. Ça va venir. Je fais également... Encore une fois, à l'heure actuelle, on est à 30 minutes d'enregistrement et je me suis lancé comme ça, j'ai pas pris de notes. Je fais très peu de montage parce que je suis face à Audacity. Il y a plein de boutons, plein d'options bizarres et c'est pas ce qui me plaît dans le podcast. Alors j'ai conscience que j'ai envie quand même de proposer un contenu de qualité, tant en termes d'audition qu'en termes de contenu. Alors bon, malheureusement, le contenu, je peux pas le rajouter avec Audacity, mais l'habillage sonore, le découpage et autres, je vais me pencher dessus, mais je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Dites-vous que là, je suis à 30 minutes d'enregistrement. S'il me faut 3 heures de montage pour faire un truc léché, c'est pas la peine. Donc j'essaye de faire en sorte que ça soit assez clean dès le début. J'ai conscience aussi que mon micro parfois déconne. Alors je pense que c'est parce que mon téléphone est allumé et que des fois ça fait cette espèce de grésillement un peu désagréable. Mon fauteuil de bureau aussi, il queen. Alors je suis navré pour ça. Mais bon, voilà, j'ai pas un studio pour enregistrer. Je pense que c'est relativement audible. Je cherche aussi actuellement un hébergeur pour les podcasts, mais a priori, je vais me tourner vers Bad Geek parce qu'ils proposent des podcasts que j'écoute beaucoup. Ils sont cool. Et l'interface, j'aime bien. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez tenu jusqu'à là. On va être à 32 minutes quand on va couper. J'espère vous retrouver assez vite. Encore une fois, si vous avez des remarques, des conseils à me donner, ou à me demander, n'hésitez pas. Je vais mettre en lien une adresse mail, peut-être un Twitter, mais je suis pas sur Twitter parce que c'est pas trop mon délire. Voilà, n'hésitez pas, je répondrai dès que je peux et je vous dis à la suite, à très bientôt pour la suite quoi. Allez, bye, salut.